Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h. L'antenne est à vous. Dans 30 minutes, la libre antenne, comme chaque vendredi. Vous aurez la possibilité de réagir au sujet d'actualité de votre choix. Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée. Vous avez été très nombreux à commenter l'actualité politique ces derniers jours dans ces pays. On y revient dans la seconde partie de l'émission. Vos réactions nous intéressent. N'hésitez pas à nous contacter au standard 33 9 693 693 70. Je lirai également quelques une des réactions que vous nous avez transmises via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Mais d'abord, votre traditionnel rendez-vous pour mieux comprendre et saisir l'actualité avec vos questions auxquelles répondent des journalistes de la maison et des experts. Nous sommes en ligne de Lubumbashi en République démocratique du Congo avec Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour Namoury Dosso.
Alors, vos interrogations, Bernard, elles portent sur les événements qui se sont déroulés dans la ville de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, le week-end dernier. Bernard, pour vous répondre, nous sommes en direct de Kinshasa avec Paulina Zidi, notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Paulina.
Bonjour.
Alors Bernard, quelle est votre première question ?
L'FCM23 accuse l'armée congolaise, la SADC et la MONUSCO d'être responsables les dernières attaques à Goma. Alors ma première préoccupation, quels sont les arguments avancés par les groupes armés pour faire de telles accusations ?
Bernard, Paulina Zidi, notre correspondante en RDC, vous répond.
Oui, alors en fait, le groupe armé n'a pas détaillé ses arguments. Hein. La FCM23 accuse les FARDC, l'armée congolaise, la MONUSCO, mais aussi la SAMI-DRC, donc la force de la communauté d'Afrique australe, d'être responsable des attaques qui ont frappé le week-end, ou en tout cas d'avoir une responsabilité dans les attaques qui ont frappé le week-end dernier Goma, l'aéroport de Kavumu, près de Bukavu, ainsi que d'autres localités dans les deux provinces. L'armée congolaise, la SADC et la MONUSCO ont réagi suite à ces accusations. Elles ont toutes démenti, toutes ces forces ont démenti. La MONUSCO estime, par exemple, que ce sont des accusations graves et sans fondement. Attaques, en revanche, revendiquées par des groupes Wazalendo, ces groupes d'autodéfense alliés de Kinshasa.
Alors, Paulina, pour bien comprendre un peu ce que le groupe armé pourrait reprocher à la MONUSCO, il faut revenir sur la prise de Goma.
Oui, à ce moment-là, donc on est au mois de janvier, des combattants loyalistes proches des forces de Kinshasa se sont réfugiés dans les bases de la MONUSCO. On estime qu'ils étaient alors environ 3000. Ils ont été désarmés pour pouvoir entrer dans les bases et depuis, ils sont sous la protection de la mission onusienne qui assure en plus le gîte et le couvert. Mais certains de ces combattants ont quitté ces bases. Il faut rappeler qu'ils n'étaient pas prisonniers. Ils sont partis de leur propre gré après avoir signé un document expliquant leur départ. Selon les sources onusiennes, ces militaires n'étaient pas armés lors de leur sortie. Cependant, ce que l'on sait, c'est qu'aucun suivi n'a été effectué après leur départ de la base de l'ONU.
Alors Bernard, quelles sont vos autres interrogations ?
Oui, est-ce que cette situation permet d'empêcher les initiatives diplomatiques en cours et où en sont les discussions d'ailleurs à Doha ?
Paulina Zidi.
Alors, sans faire de projection dans l'avenir, on peut regarder les tensions passées. Ce conflit dure depuis bientôt 3 ans et on a vu plus d'une fois la dégradation de la situation sur le terrain faire capoter des discussions. Mais on a aussi vu l'inverse. Hein. On a aussi vu l'échec de discussions avoir des répercussions immédiates sur les opérations militaires. Par exemple, la prise de Goma et de Bukavu en janvier et février dernier ont eu lieu après la rencontre annulée de Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 15 décembre à Luanda en Angola.
Et d'ailleurs, Paulina, c'est une question que se posait également notre auditeur Bernard à Lubumbashi. Où en sont les discussions à Doha ?
Alors, c'est une bonne question et c'est compliqué. Elles sont compliquées à suivre, ces discussions, puisqu'il n'y a aucune communication officielle. C'est vraiment la carte de la discrétion que jouent les autorités qatariennes. On sait qu'il y a eu 2 rounds de discussions avec des représentants de la FCM23 et des représentants de Kinshasa. Clamédation a fait beaucoup d'allers-retours entre les deux délégations, mais qu'il y a eu au moins une réunion où tout le monde s'est assis autour de la même table. Mais en fait, on n'en sait pas beaucoup plus. Les deux camps auraient déposé des préalable avant toute vraie discussion. Et ces préalables sont actuellement un premier point de blocage.
Bernard Lubumbashi, avons-nous répondu à vos interrogations ?
Oui, très bien, bien répondu. Merci à Pauline Azidi. Ravi de vous avoir, vous, Namori de Soir à l'antenne. Et bon week-end à vous. Merci.
Merci à vous, Bernard. Et on vous souhaite une excellente journée à Lubumbashi. Merci également à Pauline Azidi, notre correspondante en République démocratique du Congo. On reste justement à Lubumbashi, la capitale provinciale du Haut-Katanga, dans le sud-est de la RDC, où le président Félix Tshisekedi était de passage hier, où il a posé la première pierre du nouvel aéroport de Luano. Nous accueillons désormais Ernest. Bonjour Ernest.
Bonjour, bonjour Namori, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Alors, vos questions ne concernent pas la visite du président Tshisekedi dans le sud du pays. Vous, vous vous interrogez sur la situation à Gaza.
Oui, bien sûr. Disons que l'armée israélienne affirme avoir pris le contrôle du corridor de Mourag, coupant Rafah du reste de l'enclave palestinienne. Alors, pourquoi cette zone est un axe clé pour les autorités israéliennes et quels sont les objectifs de l'armée en isolant la ville de Rafah du reste de l'enclave ?
Alors Ernest, nous sommes en ligne avec Abla Jounaidi. Abla Jounaidi, c'est notre envoyé spécial à Jérusalem, où il est actuellement 11h16. Bonjour Abla.
Bonjour Namori, bonjour.
Alors Ernest nous posait la question, il voulait savoir, dans un premier temps, pourquoi cette zone est un axe clé pour les autorités israéliennes, Abla Jounaidi.
Alors Ernest, les responsables israéliens l'ont dit, et ils ne s'en cachent pas, en déplaçant les populations de Rafah au sud vers le nord et en avançant leurs troupes au sol, l'armée prend le contrôle de ce qu'elle appelle une zone de sécurité composée de corridors, des couloirs qui sont fortifiés. Et ce n'est pas nouveau, il y a déjà celui de Philadelphie qui sépare Gaza de l'Égypte, celui de Netzarim qui coupe Gaza en deux, nord-sud, qui a été ouvert pendant le cessez-le-feu, qui a depuis été violé par Israël. Il y a enfin celui de Mafalsim, dont on parle un peu moins, tout au nord, près du camp de Jabalia. Le dernier en date, vous l'avez dit, donc c'est celui de Mourag dans le sud. Il sépare Rafah de la ville de Khan Younes. L'idée, toujours, c'est la même, séparer, morceler le territoire de Gaza et renforcer la présence de l'armée israélienne entre ces zones. Au moins un quart du territoire de Gaza serait amené à être militairement occupé, d'après l'armée, pour contrôler les mouvements de population. Mourag porte le nom d'une ancienne colonie israélienne de Gaza. Pour plusieurs experts, ce plan rappelle une stratégie qui a été déjà mise en place en Cisjordanie occupée afin de mailler militairement le territoire. Et la crainte, évidemment, c'est de savoir si cela vise à favoriser l'évacuation des Palestiniens de Gaza, comme en rêvent les alliés extrémistes de Benjamin Netanyahou au gouvernement, et comme y incite aussi Donald Trump pour transformer complètement l'enclave.
Alors Ernest, vous aviez une autre question.
Oui, où en sont les négociations entre les Hamas et Israël ?
Abla Jounaidi.
Alors pour le moment, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas, avec une médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte, depuis plus d'un mois maintenant, elles n'ont rien donné. L'autre objectif de ce morcellement militaire de Gaza dont on vient de parler pour Israël, c'est d'accroître la pression justement sur le Hamas pour l'affaiblir militairement, pour l'obliger à libérer les otages restants. Ça ne semble pas marcher pour le moment, même si le mouvement islamiste est certainement affaibli. Il a refusé hier la dernière proposition israélienne de cesser le feu temporaire. En fait, chaque partie a pour le moment ses lignes rouges. Le Hamas ne veut pas désarmer, il ne veut pas quitter le territoire de Gaza. Il a exigé le retour de l'aide humanitaire coupée par Israël. Le Hamas veut négocier un accord global avec un cessez-le-feu permanent, avec à la clé un retrait complet d'Israël, la libération de tous les prisonniers palestiniens et puis évidemment la reprise de l'aide. Tel Aviv, de son côté, veut le désarmement du Hamas, on l'a dit, la libération d'un maximum d'otages sur les 24 encore vivants. Donc aujourd'hui, pas d'avancée. Chaque partie tente de faire pression, y compris côté israélien, la société civile. De plus en plus, elle ose demander la fin de cette guerre qui menace la vie des otages à chaque instant. Et puis, plus cette situation dure, plus les conséquences humanitaires sont terribles pour les civils palestiniens de Gaza. Le robinet de l'aide humanitaire est toujours fermé par Israël. Et puis, les bombardements destinés à frapper le Hamas font toujours essentiellement des victimes civiles, des femmes, des enfants, des journalistes, Namouri.
Ernest, Abla Jounaidi vient de répondre à vos interrogations. Êtes-vous satisfait ?
Très très bien, Amaury, et bonne journée à toute la grande équipe.
Merci, belle journée à vous également Ernest. On souhaite également une belle journée à Blajonaïdi, envoyé spécial de RFI à Jérusalem. Et on salue au passage tous les Congolais qui nous écoutent à Lubumbashi sur le 98 FM. Direction à présent le Liberia, où l'on retrouve Alseni. Bonjour Alseni, bonne arrivée.
Merci, bonjour M. Josso et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Alors Alseni, comme de très nombreux auditeurs, vous avez été interpellé par l'ouverture ce lundi aux États-Unis du procès de Meta sur les accusations d'Instagram et WhatsApp. Pour rappel, Meta c'est la maison mère du réseau social Facebook. Pour nous éclairer Alseni, nous sommes en ligne avec Julien Pillot, enseignant chercheur en économie, spécialiste de l'économie de la régulation numérique à l'INSEC, l'Institut des hautes études économiques et commerciales. Julien Pillot, soyez le bienvenu.
Bonjour Alseni, bonjour à tous les auditeurs. Alors, et merci de m'accueillir sur le plateau.
Merci, tout le plaisir est pour nous. Alseni, on écoute vos questions.
Bien, j'ai suivi sur RFI que Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, pourrait être contraint de céder Instagram et WhatsApp. Alors, que reproche-t-on aux milliardaires? Quels sont les risques pour Meta si l'entreprise devait se séparer d'Instagram et WhatsApp?
Alors, ce n'est pas la première fois que Mark Zuckerberg et son entreprise se retrouvent face aux autorités américaines. Julien Pillot, tout d'abord, quels sont les reproches adressés aux milliardaires américains?
Alors en fait, ce que l'on reproche à Mark Zuckerberg, c'est d'avoir acheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014 pour les coquettes sommes de 1 milliard de dollars pour Instagram et 19,6 milliards de dollars pour WhatsApp, avec la volonté en fait manifeste d'éliminer toute forme de concurrence sur le marché qui est hautement stratégique, mais aussi hautement rémunérateur des réseaux sociaux. Et il faut bien comprendre qu'une manœuvre qui consisterait à éliminer de façon consciente, volontaire, la concurrence qui émergerait sur un marché par le biais de ce qu'on appelle les killer acquisitions, donc les acquisitions tueuses en bon français, cette manœuvre de monopolisation, elle peut être considérée comme un abus de position dominante qui est sanctionnable au titre de l'antitrust.
Alors, Julien Pio, une question. Était-ce la volonté de Meta et de Mark Zuckerberg d'agir ainsi?
En fait, c'est tout l'enjeu du procès qui est actuellement en cours aux États-Unis. Mark Zuckerberg, lui, doit apporter la démonstration que les acquisitions qu'il a faites d'Instagram et de WhatsApp n'avaient pas pour but de monopoliser le marché des réseaux sociaux, mais bien de donner à Instagram et à WhatsApp les moyens de se développer. S'il n'arrive pas à apporter cette démonstration, alors il pourrait être convaincu d'abus de position dominante et pourrait être sanctionné d'une amende évidemment financière, mais également peut-être être forcé de revendre les actifs qu'il avait acquis en 2012 et en 2014 avec l'accord de la Federal Trade Commission, donc l'autorité de concurrence américaine, qui à l'époque avait donné son accord et qui aujourd'hui semble nettement plus réticente à valider le deal.
Alors Julien Pieux, je reprends la deuxième question de notre auditeur Alseni qui nous appelle de Monrovia au Liberia. Quels pourraient être les risques pour Meta si l'entreprise devait se séparer d'Instagram et de WhatsApp, des fleurons dont qu'elle possède?
Je dirais, Alseni, que les risques, à mon sens, sont de deux natures différentes. Il y a un premier risque qui est un risque économique, qui est évident, parce qu'il y aurait un manque à gagner, en fait, si on devait forcer Facebook de se séparer d'Instagram et de Meta. Il faut bien comprendre qu'Instagram, aujourd'hui, c'est 30% environ des revenus du groupe Meta, et c'est près de 50% si on considère que le marché américain.
Donc, ça semble considérable, quand même.
Exactement. Et si je reste sur le plan économique, un démantèlement, en fait, de l'empire de Meta, ce serait aussi synonyme de perte de valeur boursière et aussi de moins de données à monétiser. Et c'est là qu'il y a le deuxième risque en fait qui survient. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises comme Meta, Facebook, Google, Microsoft, Apple sont extrêmement sensibles au marché de l'intelligence artificielle. Et la compétition sur le marché de l'intelligence artificielle se joue aussi sur le terrain de la donnée. Et comme Instagram et WhatsApp apportent au groupe Meta des données de première main pour entraîner ses intelligences artificielles maison et notamment son IA générative qui s'appelle Llama 3, le fait de ne plus avoir accès à Instagram et WhatsApp, ce serait une perte sèche de données à exploiter pour entraîner ces intelligences artificielles pour le groupe Meta. Et vu l'importance des marchés de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce serait peut-être là le principal coup dur pour Meta, en fait.
Julien Pillot, merci. Alseni, à Monrovia, est-ce que notre invité Julien Pillot a pu répondre, a pu éclairer vos interrogations par rapport à ce sujet?
Oui, tout à fait. Merci à tous les deux, messieurs.
Alors Alseni, merci à vous. On vous souhaite une excellente journée dans la capitale libérienne. Et on salue également tous les Libériens qui nous écoutent. Il est actuellement 10h25. Dans quelques minutes maintenant, 10-15 minutes, on ouvrira la libre antenne dans Appel sur l'actualité. Mais en attendant, place au rendez-vous Un œil sur les réseaux. Et c'est avec Jessica Taïeb. Bonjour Jessica.
Bonjour Namoury, bonjour à tous.
Alors vous avez scruté pour nous les réseaux sociaux. Et cette semaine, vous nous parlez d'une chanson qui fait beaucoup de bruit au Nigeria. Son titre, Tell Me Your Papa, du rappeur Idris Abdul-Karim. Mais ce morceau, vous ne l'entendrez ni à la radio, ni à la télévision nigériane. Il a été censuré le 9 avril dernier, 3 jours après sa sortie, par la NBC, l'organisme nigérien qui régule les médias dans le pays.
Et depuis, la chanson est partout sur les réseaux sociaux, partagée des millions de fois sur X, Facebook et TikTok. Des milliers de Nigérians se filment en train de danser ou de faire du playback sur Tell Your Papa, comprenez, Dis-le à ton père en français. Et sur YouTube, le clip a été reposté après la censure et vu plus de 270 000 fois. Voilà, vous venez d'entendre un extrait de cette chanson. Alors pourquoi elle fait autant polémique ? Eh bien, c'est en fait une réponse en musique au fils du président nigérian, Seni Tinubu, qui a déclaré publiquement en mars dernier que son père était le plus grand président de l'histoire du Nigeria. Une déclaration qui a laissé perplexe de nombreux Nigérians et qui a donc donné de l'inspiration aux artistes. Et le titre est très critique du gouvernement actuel, en particulier du bilan économique. Et les paroles sont très explicite. On peut par exemple entendre « Seni, dis à ton père que le pays est en galère » ou encore « La faim est en train de nous tuer, manger est devenu un luxe ».
Et forcément Jessica, la chanson qui a enflammé les réseaux sociaux a entraîné de nombreuses réactions et surtout une vague de soutien pour le rappeur.
Des milliers de commentaires sont postés chaque jour depuis la censure de la chanson. Je peux vous en lire quelques-uns. Alors je cite « Les paroles collent parfaitement aux réalités quotidiennes des Nigérians. Tell Your Papa mériterait d'être en haut du classement des sons les plus écoutés. » Cet internaute qui se pose des questions, est-ce que quelqu'un peut me dire si Idris Abdul-Karim a dit quelque chose de faux dans ce titre ? S'il avait encensé le gouvernement, est-ce qu'il aurait été censuré ? Et ce commentaire sur X, la vérité blesse, mais il faut la dire pour sauver ce pays. Le président et son fils ne peuvent pas prétendre que tout va bien. Et alors de son côté, Amnesty International a publié un communiqué. L'organisation parle de violation flagrante de la liberté d'expression et demande au président Bola Tinubu et à la Commission nationale de radiodiffusion de lever l'interdiction.
Mais comme souvent, Jessica, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'unanimité. Le caractère politique de la chanson n'a pas plu à tout le monde.
Alors c'est vrai que la chanson a notamment été partagée par des groupes de soutien au Parti démocrate populaire, le principal parti d'opposition au Nigeria. Et ça a forcément suscité beaucoup de critiques. Je vous lis quelques commentaires et certains sont très critiques. Je pense qu'Idris Abdul-Karim se sert de son activisme pour cacher son manque de talent. Ce n'est pas de la musique. Et celui-ci qui n'est pas plus indulgent. Une chanson totalement ridicule. Idris cherche juste un moyen de relancer sa carrière musicale. Il veut manipuler les esprits crédules des Nigérians. Et je termine avec cette question que j'ai beaucoup lue sur X et sur Facebook. Pourquoi ce rappeur a-t-il subitement retrouvé sa voix aujourd'hui ? Où était-il pendant les 8 ans au pouvoir de Muhammadu Buhari ?
C'est vrai qu'il n'y a pas eu de chanson polémique sous Buhari, mais ce n'est pas la première fois qu'Idriss Abdul-Karim connaît la censure. C'était le cas notamment en 2004. Jessica Taïeb, merci. On se retrouve la semaine prochaine. 10h29 désormais. Dans quelques secondes, ce sera la dernière édition d'Afrique Matin. Restez avec nous juste après le journal. La libre antenne d'Appel sur Actualité, l'appel sur Actualité, consacré à vos commentaires, réactions et analyses sur l'actualité de votre choix.